Bonjour. Eh bien, ce matin, c'est ce petit oiseau-là qui m'a donné envie de continuer ma journée. Voilà, c'est l'arrivée du printemps. Je vous fais un gros bisou à tous.
Salut Daniel et la vaillante équipe de là-bas. Si j'y suis, le reportage sur les framboisins et la radio est intéressant. Ça semble apporter un démenti au brillant journaliste Éric Zemmour qui dit que dans ces banlieues, il n'y a que des trafiquants de drogue et des malfrats. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les écouteurs de là-bas, si j'y suis?
Bonjour, je voulais vous féliciter pour l'émission d'aujourd'hui là sur les jeunes de Saint-Denis. C'est super, vraiment j'ai adoré. Et s'il y avait un peu plus d'émissions de cette qualité sur les médias, je pense à la télé, les journaux, qui montrent un petit peu plus tout ce que ces jeunes peuvent faire, je pense que leur image serait vraiment différente aux yeux de beaucoup d'abrutis là qui pensent qu'il n'y a que des casseurs, que des petits cons, que des mecs qui font rien. Félicitations pour vos émissions, vraiment super. Je vous écoute souvent et celle-ci, j'ai adoré.
Salut Daniel, je viens d'écouter ton émission sur les jeunes là de la cité framboisin, enfin pas sûr, avec les jeunes de la cité framboisin, ben, c'était super. Hein. C'est vraiment bien qu'il y ait des choses positives sur ces gars. Moi je suis vigneron dans un petit village de Haute-Provence. Et puis, je peux te dire qu'une année, avec des copains d'un comité de quartier de Lyon 8e, cité Vermoise, il y avait 8 jeunes qui sont venus de la cité. On a eu des vendanges superbes, des vendanges géniales, ça a bossé, ça a rigolé, on n'a pas pleuré cette année-là. Et eux, ils ne savaient pas qu'il y avait un bled en France. Ils ne savaient pas qu'il y avait un bled comme chez eux, avec des paysans. Et ça a été une rencontre super. Je viens d'un petit bled, un petit village de notre Provence. Aux dernières élections, Le Pen 25%. Voilà. Merci encore pour ces émissions qui donnent la pêche. Ciao.
Je viens d'entendre un évêque parler à propos de la pédophilie, que l'Église est avec le pape, tout ce qu'on soit, malgré les jacasseries du moment. Alors là, je suis un petit peu quand même scandalisé. Prendre ce problème pour des jacasseries du moment. Je me mets à la place des familles, je me mets à la place de ceux à qui c'est arrivé. Je doute qu'ils apprécient le propos.
Eh oui, jacasserie, persécution, il est grand temps, il est grand temps de venir au secours de notre Sainte Mère, l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, vous propose de retourner à Lourdes. Lourdes, Lourdes, voilà une œuvre bien catholique, bien religieuse, bien comme il faut, comme nous l'aimons. Alors nous sommes allés voir, nous sommes retournés même à Lourdes, et c'est pas un miracle, mais ça y ressemble beaucoup. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Eh bien, je soutiens totalement les salariés de Sodimatex qui veulent sauter l'usine, mais enfin qu'il y en ait un qui fasse sauter l'usine, mais avec les patrons dedans. Et on peut même mettre Monsieur Estrosi qui trouve ça inadmissible. On n'a pas entendu dire que quand Joyandet a pris l'avion à je ne sais quel prix, c'était inadmissible. Allez, qu'on foute tout ça au milieu, qu'on les fasse sauter et que ces gars ne baissent pas la garde, qu'ils continuent, qu'ils fassent sauter tout le bordel.
Bonjour Daniel, attention au changement de date. Le prochain rendez-vous du repère de Saint-Péray en Ardèche est un rendez-vous exceptionnel qui aura lieu le lundi 12 avril. En effet, nous avons invité Bertrand Méheux, auteur du livre La politique de l'oxymore, ou Comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la réalité du monde. Et avec lui, nous allons débattre sur la question pourquoi les sociétés perdurent-elles dans leur logique de développement, sachant qu'elles vont droit dans le mur? Je vous donne rendez-vous donc le lundi 12 avril à 20h, toujours à l'hôtel Badet, pour une soirée exceptionnelle. Nous demanderons 2 euros par personne pour participer aux frais de déplacement de Monsieur Méheux. Voilà, à tous les AMG de l'Ardèche et de la Drôme, à lundi.
Bonjour, c'est pour vous informer qu'à Saint-Herblain, à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, Waterman, les filles de Waterman, avec aussi quelques hommes qui sont en grève, donc grève générale reconductible, depuis le 26 mars, elles et ils ont besoin de votre soutien. Donc, ils sont en piquet de grève devant la boîte demain matin, mardi, à partir de 5h30, la journée. Ils vendent des sandwichs pour 50 50 centimes minimum. Évidemment, ceux qui bossent et qui vont pas avoir des problèmes de thunes comme elles et eux peuvent mettre plus. Et puis, il y a une caisse de soutien aussi. Donc, en fait, eh ben, tous ceux et toutes celles qui ont le temps de venir les soutenir financièrement et moralement, ça serait vachement sympa.
Le Café Repère de Saint-Bonnet-en-Champsaur se tiendra le mardi 6 avril à 20h30 au Café L'Aguilon, place du Chevreuil à Saint-Bonnet. Nous y débattrons des circuits courts de consommation, enjeux et limites. Venez nombreux, à bientôt.
Allô, oui, bonsoir. D'abord, je salue toute l'équipe de l'émission, une émission formidable que je suis avec beaucoup d'intérêt. Et je venais compléter une proposition d'une amie qui proposait que les prêtres aient accès au mariage. Bon, on ne va pas les obliger, nous sommes dans une démocratie. Justement, nous, femmes célibataires, ça nous arrangerait beaucoup qu'il y ait des hommes un peu plus disponibles, parce que quand même, je pense qu'au niveau du pourcentage, il nous manque pas mal d'hommes. Mais par contre, gardez les bonnes sœurs célibataires, s'il vous plaît, parce que il y aura moins de concurrence. Voilà. En fait, on va essayer de faire le bonheur des uns et des autres. Et nous, en tant que femmes, nous pensons à notre petit bonheur. Et puis, c'est vrai, plus sérieusement, pourvu que plus personne ne touche à nos enfants et n'abuse de nos enfants, qu'ils soient de quel ordre qu'ils soient. Voilà. Je vous remercie et bonne soirée. Et puis, lâchez les prêtres et laissez les bonnes sœurs à l'église.
Ce qui fait la une de l'actualité en ce jeudi 1er avril 2010, c'est cette histoire de bus incendié et caillassé à Tremblay en France. Est-il d'ailleurs besoin de préciser que ça se passe en France? Et de surcroît, en Seine-Saint-Denis. À quoi faut-il s'attendre après ces incidents? À une réaction horrifiée d'une grande partie de la population, que les pouvoirs publics vont s'empresser de rassurer en promettant une répression musclée contre les responsables de ces déprédations. Il y a donc bien une vision traditionnelle selon laquelle la société fonctionnerait bien, parce qu'elle a de bonnes institutions, sans ces brebis galeuses qui perturbent l'ordre public et qu'il faut réprimer sévèrement. C'est sans doute ce qu'a voulu dire notre ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, lorsqu'il a affirmé hier soir au cours de l'émission politique de France Inter du mercredi soir que son action était guidée par un principe simple. La meilleure des préventions, c'est la certitude de la sanction. Or, durant les 25 dernières minutes que j'ai entendues de cet entretien, entre 8h moins 25 et 8h par là, je me suis amusé à relever quelques phrases du ministre de l'Intérieur. Interrogé sur le phénomène des bandes, il a notamment dit, je cite, « J'entends mener une guerre aux bandes, quelles qu'elles soient. » Ou encore, « Moi, la consigne que je donne aux forces de l'ordre, bien sûr, c'est « Vous tapez partout. » Et puis, « Moi, je crois aux interventions coup de poing. » Ensuite, il a repris à Patrick Brauzek, dont il s'est empressé de préciser qu'il était communiste ou l'avait été, la métaphore du coup de pied à la fourmilière. À cette occasion, il nous a encore asséné un de ses principes simples. Vous donnez des coups de pied dans la fourmilière. Bon, enfin, lui, il dit fourmilière, mais ça, c'est pas bien grave. À propos des trafiquants de stupéfiants, il a préconisé de casser les routes du trafic. Donc, je résume, selon Brice Hortefeux, il faut mener une guerre, taper partout, conduire des interventions coup de poing, donner des coups de pied dans la fourmilière et casser les deux routes des trafiquants. Alors c'est drôle parce qu'un peu plus tôt, au cours du même entretien, à la question posée par lui-même « À quoi sert la politique ?», il avait répondu « La politique, ça sert à construire, pas à détruire. Construire à coups de poing et à coups de pied, conformément à la vision défendue sans relâche depuis 8 ans par son prédécesseur Place Beauvau, à qui il doit sa rapide ascension politique depuis que celui-ci est devenu président de la République. Je disais plus haut qu'il y a une vision traditionnelle de la société. C'est la leur. Et je la réprouve parce que je fais partie des gens qui pensent que le meilleur moyen de perpétuer la violence, c'est de l'instituer. C'est ce que ne cessent de faire depuis 8 ans les pouvoirs publics. Et il n'y a qu'à écouter leur langage pour s'en convaincre.
De l'autre côté des Pyrénées, c'est l'Espagne. Au-dessous de vous, c'est encore le pays de Bigorre. Juste au pied des Pyrénées, non loin de l'observatoire du Pic du Midi. Lourdes, bien ignorée jadis, malgré le pittoresque de sa vallée, est devenue la capitale de la prière et le rendez-vous des souffrances du monde, qui viennent implorer et s'offrir.
Pour moi, mes vacances, c'est d'aller dans des endroits religieux, dans des endroits pieux. Je suis partie une fois, toujours en groupe, en vacances, mais je ne sais plus où. C'était pire que païen, quoi. C'était pire que païen.
Il a suffi pour cela que la Vierge Marie apparaisse à la plus pauvre des enfants de cette bourgade, Bernadette Soubirous, et lui dise qu'elle voulait être honorée et priée en ce lieu.
Mais quand je passe là-bas, je pense à Brassens, que j'aimerais avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier.
Il était malade d'une sclérose multiple en plaques. Il est venu ici en pèlerinage sur son fauteuil. Et l'après-midi, il participe à la messe. Il commence à ressentir dans son cœur et dans sa tête une voix féminine, forte, qui lui dit « Lève-toi et marche ». Et vers 3 heures du matin, cette voix revient encore une fois « Lève-toi et marche ». Il essaie de se mettre à côté du lit, il se met debout, il marche jusqu'à la salle de bain, il rentre à sa place complètement guéri.
Et voilà, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec François Ruffin. Lourd en haut, lourd en bas. Flight number 2, arriving from
New York. Voilà, il est 7h du matin. Le jour se lève dehors sur les villages. J'ai passé la nuit dans le train couchette Paris-Lourdes. Je me suis bien reposé malgré des chants religieux. Parfois dans les cabines d'à côté.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons en gare de Lourdes dans quelques instants. Prochain arrêt Lourdes, veuillez ne rien oublier à votre place. SNCF et son personnel accompagnant vous souhaitent une bonne journée.
Lourdes, c'est un point de passage obligé dans la famille, enfin surtout pour les femmes. Je me souviens de mon arrière-grand-mère qui m'avait ramené une garotte en cuivre avec Sainte Bernadette agenouillée devant la Vierge Marie. Et un petit mécanisme qui jouait « Je vous salue Marie » tous les soirs avant de m'endormir. Ma mère aussi, je me souviens de ma mère, qui partait heureuse pour Lourdes, tout habillée de blanc, en train de pousser des chariots de pierre paralytiques sur le quai de la gare d'Amiens. À la demande de mon patron, aujourd'hui c'est à moi de partir en pèlerinage, un peu partagé entre la moquerie pour ces bondieuseries. Et le respect pour la croyance populaire, la foi du charbonnier.
Pour la sortie, veuillez emprunter les passages
souterrains,
s'il vous plaît.
Ben oui, bien sûr, on hésite. Bien sûr, la moquerie envers... l'Église, et puis le respect pour cette piété populaire, ce rendez-vous des souffrances du monde qu'est Lourdes, premier lieu de pèlerinage au monde, avant la Mecque, 5 millions de visiteurs chaque année. Quand on dit 5 millions, je ne sais pas si on dit c'est le premier du monde, je ne suis pas sûr qu'on compte avec les pèlerinages en Inde, mais en tous les cas, c'est considérable. Alors, se moquer. Bien sûr, à chaque fois, quand on se moque, il ne manque pas d'avoir un auditeur, une auditrice pour dire « Vous vous moquez de l'Église, mais vous n'oseriez pas avec le judaïsme ou avec l'islam. » D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on ose, mais il faut bien dire la vérité. C'est que, pour ce qui me concerne en tout cas, ni l'islam, ni le judaïsme n'ont tenté de gâcher mon enfance comme le catholicisme a réussi à le faire. On va parler de Lourdes, vu par l'un des envoyés spéciaux de là-bas si j'y suis, François Ruffin, qui, comme pas mal d'entre nous, a des souvenirs dans son enfance et des parents chers, des tantes chéries ou des oncles, etc., qui sont allés en pèlerinage à Lourdes, 5 millions de pèlerins par an. C'est bien rare que vous n'ayez pas un proche ou une proche qui soit allé et qui vous ait rapporté une de ces médailles miraculeuses ou bien l'une de ces petites vierges lumineuses. Bref, à Lourdes, on est tous mouillés.
Jésus-Christ, un jour tu vas revenir. Est-ce que tu iras t'inscrire dans un club de catholiques? Est-ce que tes gosses, ils iront chez les scouts? Est-ce que toi aussi, tu voteras à droite. Jésus-Christ, toi qui t'y connais un peu, est-ce que maintenant tu peux nous dire qui c'est le vrai Dieu? Toi qui t'es tapé une pute il y a quelques années, est-ce que pour faire plaisir au pape, t'es chiche d'y retourner sans capote? Alléluia! Moi aussi j'aimerais devenir catholique, moi aussi je veux détenir la vérité, car quand on est convaincu qu'on a raison, on n'a plus besoin de se casser le cul à réfléchir. C'est mieux d'être catholique le jour où on meurt, car on va au paradis au lieu d'aller nulle part. Mais pour aller au paradis, faut faire des bonnes actions, comme par exemple donner du pain à des sales clochards. Mais si t'es gentil avec les sales clochards, juste pour avoir ta place au paradis, bah Dieu il va trouver que t'es un peu hypocrite. Mais ça c'est dur de comprendre quand on est catholique. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ, un jour tu vas revenir, est-ce que tu pourrais légaliser le mariage pour les curés, histoire qu'ils laissent un peu les enfants tranquilles?
Alors là, on sort de la gare de Lourdes, on se trouve donc dans le Lourdes d'en haut, parce qu'à Lourdes, il y a le Lourdes d'en haut, il y a le Lourdes d'en bas. Le bas de Lourdes étant le Lourdes chrétien, le Lourdes sacré, et le haut de Lourdes étant le Lourdes d'une ville presque normale. Dans une ville habituelle, sur les sucettes, sur les panneaux d'affichage, on aurait des publicités pour du parfum avec une jeune fille déshabillée, on aurait une publicité pour un journal, et ainsi de suite. Là, qu'est-ce qu'on a? La première publicité, c'est une publicité pour le musée de Lourdes qui présente une exposition sur le thème « Elles ont pris le voile », exposition de poupées religieuses. Deuxième panneau sur lequel on tombe, c'est cette fois un panneau d'affichage pour un journal. C'est pas pour Marianne, c'est pas pour l'Express, c'est pas Sarkozy en couverture, c'est Lourdes Magazine sur le thème « Guérison et miracles ». Et avec à l'intérieur, en cadeau, le poster des miraculés. Là, je traverse les rues de Lourdes pour me rendre à l'hôtel Saint-Sauveur, qui se trouve rue Sainte-Marie, après la place Saint-Michel. Tout est saint ici. Hôtel Sainte-Marthe, hôtel Saint-Julien, hôtel Saint-Sébastien. Et d'hôtel Saint-Sébastien sort un convoi de paralytiques.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
Nous descendons maintenant dans la basilique souterraine, en béton, super armée. Je vais aller chercher maintenant, si vous voulez bien, mon aube et mon étole pour animer le chemin de croix assis.
Alors là, votre étole est violette à vous.
Je pourrais mettre violette pour le chemin de croix, la souffrance. Mais moi, je préfère parler de l'espérance et de la lumière. Donc, je mettrai le côté blanc.
Ah voilà, parce que c'est une étole avec deux faces. Donc, c'est une étole réversible.
Oui, et il y en a avec d'autres couleurs. Hein. On pourrait avoir vert, j'espère. La couleur de l'espérance est le blanc, le rouge, bon, l'Esprit Saint.
Comment ça se fait que c'est à Lourdes que tout ça se déroule?
C'est une petite fille, Bernadette. Qui un jour, Bernadette, qui ne savait ni lire ni écrire, d'une famille pauvre, qui était montrée du doigt, le papa ruiné. Puis un jour, elle a voulu aller chercher de quoi chauffer la maison. Et il y avait un lieu, le lieu qui est devenu le lieu des apparitions, tout près d'un petit ruisseau marécageux, où il y avait des débris de toutes sortes de choses, des os d'animaux, de pas grand-chose, mais de quoi peut-être allumer un petit feu. Et il s'est passé des choses mystérieuses, à savoir l'apparition d'une belle dame. Et là, une source est née, une source de vie. Je vais avancer parce que dans 5 minutes, la célébration va commencer.
Ave Maria.
18 ans que je viens maintenant. C'est une semaine de vrai plaisir. Hein. Donc, et je dis, quand on a du plaisir, il faut le faire partager. Alors moi, j'essaie de le faire partager à tous mes amis, etc.
Alors, vous dites une semaine de vrai plaisir. Ce n'est pas le plaisir courant. Ce matin, il y avait une procession et une messe. Là, cet après-midi, c'est un chemin de croix. Il va y avoir ensuite une procession eucharistique, puis une procession au flambeau. Ce sont des plaisirs rares.
Ce sont des plaisirs qui ont une autre dimension, on va dire ça comme ça. Puis ceux qui veulent peuvent aller toujours à la grotte, peuvent venir réciter un chapelet, peuvent aller à l'adoration. Donc, il y a aussi cette liberté de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour Dieu, etc., à son rythme.
Est-ce que Bernadette, est-ce que la Vierge Marie participe de ces plaisirs?
Il est évident, quand on arrive à Lourdes, le train passe d'abord là sur le côté, et la première chose qu'on fait, enfin moi en tout cas quand j'arrive, je fais signe comme on dit, hein, donc en disant coucou, bon ben voilà, on arrive, on est là. Hein. Et puis le soir, on va passer un petit peu à la grotte, dire bonjour, et puis...
Alors là, vous ne parlez pas du tout des guérisons, pas du tout des miracles.
Oui, mais les miracles et les guérisons, c'est ce qui a au départ donné l'ampleur et le coup d'envoi d'une... De tout ce qui se passe ici. Ouais,
c'est un coup marketing génial.
On ne va pas dire que c'est du marketing, mais disons que c'est ce qu'il y a. Il faut l'avoir vu aussi. Moi j'ai assisté à une procession comme il va y avoir lieu là maintenant tout de suite. Une petite fille était là assise dans sa chaise. Ça faisait des années et des années depuis qu'elle était née qu'elle ne pouvait pas se bouger ni rien du tout. Et au moment où le Saint-Sacrement est passé, elle s'est quand même levée, elle a tapé ses bras au ciel. Et puis voilà. Bon, ça, je l'ai vu, j'y étais. Donc cette gamine, elle s'est levée de sa chaise de laquelle qu'elle n'avait jamais quittée depuis qu'elle était née pratiquement. Et puis voilà. Et puis elle est restée debout. Hein. Donc je vous assure que les gens qui sont alentour, ils deviennent blancs. Quoi. Ils disent attends, il se passe quelque chose. Quoi, ici.
La Libre Pensée, c'est une association qui s'efforce de défendre par son nom même la liberté de penser. Et comme cette liberté de penser a toujours été contestée par les religions, c'est une association qui est anticléricale et antireligieuse.
Vous faites ça à Lourdes. Donc vous n'avez pas été pendu, ni chassé, ni on ne vous a pas mis le goudron et les plumes en vous faisant sortir de la ville.
Non. Il y a une quarantaine d'années, lorsque la Libre Pensée organisait des conférences contradictoires sur un sujet comme Lourdes, il y avait des contre-manifestations avec des gens qui chantaient l'Ave Maria, etc. Ces temps sont révolus. L'Église s'efforce plutôt de faire le silence autour de nous.
Pierre Cabanne, prof d'histoire à la retraite, ancien croyant, ami de la Libre Pensée 65. La Libre Pensée 65, c'est les Hautes-Pyrénées. Et il y a donc cette amicale des libres penseurs, c'est-à-dire des anticléricaux, dans Lourdes d'en haut. Lourdes d'en haut et Lourdes d'en bas. En bas, vous avez compris, c'est le lieu des pèlerinages. Et en haut, c'est une ville. Et l'opposition dure depuis 150 ans. Les idées sont là, qui se font face. Et ça n'a pas cessé. Alors évidemment, avec le temps, tout cela s'est émoussé. Ces miracles qui ont apparu, ces apparitions tombaient bien au cœur du 19e siècle, au moment où, avec la révolution industrielle, le déplacement des populations rurales vers les villes, on sentait bien que l'Église perdait de son emprise sur les âmes et il fallait régénérer. Rechristianiser ces braves moutons, d'où ces apparitions, ces miracles extraordinaires à travers non seulement la France, mais à travers toute l'Europe. Vivacité quand même du phénomène, c'est toujours présent aujourd'hui, aussi bien à Lourdes en bas qu'à Lourdes en haut.
Bernadette Soubirous, d'abord, c'est un personnage qui apparaît extrêmement sympathique, parce que je considère, moi, qu'elle est une victime du cléricalisme religieux qu'il a utilisé. Dans la légende dorée, cette bergère qui a un certain nombre d'apparitions, qui draine les foules, et qui, faisant gratter le sol au pied de la grotte de Massabielle, fait jaillir une source de 120 000 litres d'eau par jour, ou quelque chose comme ça, si ma mémoire ne trahit pas, elle va être à l'origine d'une légende qu'elle ne maîtrisera plus, puisque l'Église, après avoir hésité longtemps, s'efforcera de la mettre en quelque sorte hors jeu, en la faisant entrer à Nevers, et plus personne d'ici ne la verra. Moi, elle me fait un peu pitié. Cette petite fille qui vit dans un milieu excessivement difficile, dans une famille qui a de gros problèmes. Le père, tout le monde le sait, bon, le père a bu, ils avaient un moulin où ils étaient à peu près prospères, il a dilapidé en quelque sorte les biens, il s'est fait prendre pour quelques larcins, la mère qui tenait à table ouverte, bon, ils n'ont plus rien, ils sont obligés de se réfugier dans le cachot, qui est un des restes de la prison, de la vieille prison de Lourdes qui est abandonnée. Bon, ça c'est le côté familial. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre aspect, c'est le rôle de l'Église. Cette fillette, je dis une fillette, bien qu'elle ait 14 ans, elle ne sait ni lire ni écrire, et elle va, lorsqu'elle garde les moutons, notamment dans sa famille à Vartrès, être sous l'influence d'un curé qui s'appelle le curé Adair, et qui lui parle continuellement de faits extrêmement merveilleux, en particulier l'évocation de ce qui s'est passé une dizaine d'années auparavant à la Salette, où deux enfants avaient prétendu, depuis on a vu que c'était une escroquerie, et l'Église elle-même l'a mis, avait prétendu voir la Vierge. Et alors, ce curé Adair, avec cette petite fille simple, va la suggestionner de telle sorte qu'elle sera prédisposée à voir ce qu'elle avait envie de voir. Et le troisième aspect, c'est peut-être sa constitution. Elle est malade. Lorsqu'elle arrive à 14 ans, elle en paraît-il 10, 11 d'après les chroniqueurs de l'époque. Cette fillette, bon, doit connaître les premiers moments avec la puberté, de l'éveil d'une sexualité, où elle découvre l'impureté. Et tous les psychiatres vous diront que tous ces éléments-là, ajoutés les uns à l'autre, le milieu familial, l'imprégnation religieuse, et puis les problèmes psychologiques liés à un développement mal maîtrisé, font de ce genre d'enfants des visionnaires potentiels. Voilà un peu la Bernadette. Eh bien, pour les rationalistes et les libres penseurs, sur le personnage de Marie Bernarde, eh bien, nous n'avons pour elle qu'une certaine tendresse, parce que c'était quand même une pauvre fille.
Un miracle. On vient à Lourdes pour ça, bien évidemment, pour les miracles. Alors là, on était donc avec les libres penseurs de Lourdes d'en haut. On va redescendre vers Lourdes d'en bas, c'est-à-dire ben justement là où se produisent parfois, quelquefois, et les miracles. Mais la rivalité entre les deux parties de Lourdes est aussi, bien sûr, c'est une affaire de réflexion, de façon de voir les choses, entre les sceptiques laïcs et puis les croyants. Mais il y a aussi une affaire de sous, tout simplement. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sous en bas. Et ça ne remonte pas toujours suffisamment vers le haut, d'où cette rivalité, cette tension entre les deux parties de la ville. Alors, les miracles, voilà quelqu'un qui y croit, en tout cas. Fabio Negri, qui était architecte et père de 7 enfants, et qui a consacré entièrement sa vie à l'église, à la Casa di Maria, où il a entendu, figurez-vous, un beau jour, l'appel du Seigneur.
Vous savez bien, beaucoup de miracles sont arrivés ici, à l'endroit même où nous sommes en ce moment. Existe depuis 150 ans un bureau médical, scientifique, international, qui a étudié des milliers de cas de guérison. Et ces docteurs ont parlé plus que de 1700 fois de guérisons qui n'ont pas une explication scientifique. Ouais. 2700. L'Église, de tout ça, a retenu 67 guérisons miraculeuses.
Ils ont trié sérieusement quand même dedans, parce que 67 sur 2700...
Voilà, c'est pas mal. L'exemple de l'avant-dernière, miracle approuvé il y a 9 ans, 1999, c'était la guérison d'un monsieur français de la ville d'Angoulême. Il était malade d'une sclérose multiple en plaques. Il est venu ici en pèlerinage sur son fauteuil. Un jour, le matin, il a reçu le sacrement de l'onction des infirmes. Et il dit, j'ai reçu une grâce ce matin. Pour la première fois dans ma vie, je ressens la paix dans mon cœur. Mais il était encore malade. Mais il avait ce sentiment de paix dans son cœur.
Il avait accepté sa condition, en un sens.
Voilà, c'est ça. Il avait accepté la volonté de Dieu. Et l'après-midi, il participe à la messe. Il commence à ressentir dans son cœur et dans sa tête une voix féminine, forte, qui lui dit « Lève-toi et marche ». Il n'aime pas entendre ça. Il ne dit rien à personne. Il pense plus à une hallucination. Il laisse tomber, le soir venu, encore cette voix revient, encore rien. Il cherche d'oublier tout ça. La nuit, il était déjà dans son lit, on l'avait mis dans son lit, il était malade. Et vers 3 heures du matin, cette voix revient encore une fois, « Lève-toi et marche ». Il essaie de se mettre à côté du lit, il se met debout, il marche jusqu'à la salle de bain, il rentre à sa place, complètement guéri de sa maladie, de cette sclérose multiple en plaques. Tout a été étudié. Et voilà, en 1999, l'Église a proclamé ce miracle. Ici, on voit une chose très belle. D'abord, on a eu la guérison du cœur. Après, la guérison du corps. Presque tous les malades repartent avec un espoir dans leur cœur. Et ça, c'est très important. Même s'ils ne sont pas guéris.
Il y a 67 miracles reconnus. Mais en vérité, des guérisons de l'âme, on les compte par dizaines de milliers ou par centaines de milliers.
On ne peut pas les compter. Je crois même des millions, peut-être.
Là, on est entré donc dans le sanctuaire de Lourdes à l'accueil Jean-Paul II. On a traversé, je crois, juste à côté, c'est le musée des Miraculés.
Oui.
Et on est arrivé au deuxième étage, au bureau médical, avec le chef, le docteur Tellier.
À Lourdes, il y a d'abord eu des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Donc, il y a eu 18 apparitions, au cours desquelles, dès le moment où il y a eu la découverte de la source de ce jour-là, il y a eu des guérisons qui ont été tellement nombreuses qu'on a parlé d'épidémie de guérison. Des guérisons spectaculaires, de maladies graves, de gens qui pouvaient être en phase terminale. On a vu des plaies se refermer, etc.
Finalement, est-ce que la Vierge Marie, est-ce que Sainte Bernadette, est-ce que Lourdes, c'est un peu comme Harry Potter ?
Ça n'est pas magique, si vous voulez. Il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. Il y a un phénomène physique qui a lieu. Ce mécanisme n'est pas de l'ordre du magique du tout. Il y a bien un phénomène biologique qui a lieu. Mais il ne faut pas voir ça comme un coup de baguette magique.
Alors, j'ai juste lu votre livre. Vous dites, en quatrième des couvertures, « Guérison physique et spirituelle sont indissociables et à la portée de tous ». Alors, comment on fait pour se mettre Dieu dans le cœur et guérir ?
Alors, c'est à la portée de tous, mais ça n'arrivera pas forcément à tout le monde. Parce qu'il est sûr que tous les malades ou handicapés ou infirmes qui viennent à Londres ne repartent pas guéris. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose d'impossible. C'est toujours possible. Vous allez me dire, comment faire ? Ce qu'il faut, c'est être dans une démarche de confiance, de tout attendre de Dieu.
J'ai noté, donc j'ai eu la liste sur Internet, des guérisons de Lourdes reconnues miraculeuses par l'Église. J'ai noté qu'en 1858, donc l'année des apparitions, il y a eu 7 guérisons en un an. Oui. Ensuite, il y en avait eu 33 en 36 ans. Ensuite, dans les années 50, il y en a encore eu 16 dans les années 50. Ça s'est raréfié, il n'y en a eu que 3 dans les années 70. Là, il y en a eu une dans les années 80 et il n'y a plus rien depuis 1987.
Alors, 21 ans, il n'y a plus rien.
Alors, Lourdes est-il en panne ?
Lourdes est-il en panne ? Non. Non, parce qu'il y a de plus en plus de pèlerins qui passent à Lourdes hein, actuellement.
Ah, ça, c'est sur le terrain commercial, sur le terrain médical.
Médical.
Les gens qui sont malades aujourd'hui, moi, je leur recommande d'aller voir leur médecin, pas de venir à Lourdes. Il y a eu quand même, en 150 ans, des progrès médicaux immenses grâce à la médecine. Mais Dieu agit à travers la médecine et les médecins.
Alors voilà, la caution de la science, l'effet d'autorité de la science par laquelle il ne faut jamais se laisser intimider, puisque par nature, la démarche scientifique, c'est une démarche du doute opposée au dogme, hein, qui n'est pas affecté par la réalité, comme vous le savez. Donc la différence est là fondamentale entre le rationalisme ouvert et le dogme religieux, qui peut avoir des souplesses, mais qui ne change pas, évidemment, fondamentalement. Alors voilà, on continue cette découverte. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, c'est une découverte tant... Il y a quelque chose de cloisonné là-dedans. Il y a ceux qui y croient, qui y vont, pour qui c'est des grands moments d'émotion dans leur vie. C'est un but, c'est une façon de faire partie d'une grande communauté des catholiques à travers le monde, un milliard. D'ailleurs, la plupart de ceux qui viennent ici sont des étrangers. Beaucoup d'Italiens viennent à Lourdes. Et puis, ceux qui espèrent un mieux-être, et beaucoup, effectivement... De blessés, d'esquintés et de cabossés de la vie qui viennent là prier, entendre des chants et espérer.
Non, ce sont quatre personnes de mon village où je suis curé maintenant en Belgique.
Donc là, on est en train de boire un verre à la brasserie Les Brancardiers avec le père Xavier Hermand et de la région de Namur.
Oui, en Belgique, oui. Nous sommes en train de boire un verre à la santé d'un de mes grands amis, qui était aussi mon filleul, Alexis, qui est mort malheureusement il y a 16 ans, un accident. Et Albert et Viviane pensent beaucoup à leur fils. Alexis a été renversé par une voiture et pendant plusieurs semaines est resté dans le coma. Les parents, comme tous les parents, demande au curé, au vicaire, au prêtre, à l'ami, tu veux bien mettre une bougie pour nous à Lourdes, tu veux bien prier pour nous. Et la prière, c'était que ce soit le mieux pour Alexis. On espérait qu'il sorte du coma. Je suis revenu le 11 septembre, donc il y a 16 ans. Moi, j'avais prié la Sainte Vierge qu'arrive le meilleur pour Alexis. Quand je suis arrivé à l'hôpital, aux soins intensifs, Alexis est décédé. Je leur avais dit, tiens, fin septembre, on va repartir à Lourdes. Et la maman, qui n'avait jamais voyagé à l'extérieur, et nous sommes partis à Lourdes.
Je me tournais vers Albert. Je croyais que le bon Dieu avait pris mon fils. Et je me suis dit, en venant à Lourdes, c'est que le bon Dieu avait besoin d'Alexis chez lui. Et on s'est fait une petite raison, mais et chaque année maintenant, nous venons pour lui.
Donc vous n'avez pas été en colère après le ciel ?
Au début un peu. Quand on est arrivé la première fois, que j'ai vu les malheureux qu'il y avait ici et les parents qui... il faut qu'on fasse quelque chose pour les autres. Puisque nous, on ne sait plus rien faire pour notre fils. Faisons pour les autres. Et voilà, c'est parti.
Vous aussi, Viviane ?
On a prié pour le mieux, on a fait tout ce qu'on devait faire et tout. Et malgré tout, la Vierge l'a repris et... Il est bien là, il est plus heureux là-bas, quoi. Et nos prières, elles ont été exaucées. Le meilleur, c'était de le reprendre, il n'y avait plus que ça à faire.
Et ensuite, vous êtes venu à Lourdes ?
Un peu pour passer un peu la colère, parce que j'avais quand même perdu un peu la foi, quoi. Pourquoi il avait fait ça, pourquoi ? Et je me suis posé plein de questions dans mes prières et tout ça. Et pour finir, je me suis réconciliée et maintenant ça va bien. Le bon Dieu l'a repris, il est bien là et il ne souffre plus, quoi. Moi, c'est ça qui me fait avancer. Oui, il est là, il est bien, il nous voit de là-haut, tout. Il nous aide aussi. Parce que j'avais vraiment perdu confiance, je n'avais plus rien. Il me semblait que tout s'écroulait, j'avais plus rien à faire sur la terre, j'avais perdu un enfant. C'était comme si on m'enlevait ma vie à moi aussi, je ne servais plus à rien, quoi.
Alors, Lourdes, c'est le lieu de la Vierge Marie, c'est le lieu de la maternité. En allant à la grotte, vous avez discuté de ça avec la Vierge ?
Je parle beaucoup à l'intérieur de moi-même avec elle. Elle m'envoie des signes quand même. Beaucoup, beaucoup, oui. Bon, on est un peu dans le même cas, quoi. Comme toutes les mamans qui voient partir leurs enfants.
Et pourtant, ça coûte cher un voyage à Lourdes. Ils n'ont pas les grands moyens pour venir, puisque c'est des gens du peuple, du monde ouvrier. Et le 13 septembre, eh bien, chaque fois, ils espèrent être à Lourdes et ils retrouvent Alexis. Dans chaque malade qu'ils conduisent, dans chaque personne qu'ils rencontrent et dans chaque visite qu'ils font à la grotte.
On va aller voir la grotte. La grotte qui est ouverte.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sauver et guérir tous les hommes, Seigneur, vois pitié.
Tout est bétonné. Et j'éprouve un sentiment de déception. J'ai vu le film Bernadette, réalisé en partenariat avec l'Église. Et à chaque fois, dans les films, il y avait une rivière qui coulait devant la grotte. Et on voyait parfois les chariots de paralytiques se précipiter dans cette rivière. J'attendais ce spectacle. Tout est bétonné. J'ai appris qu'on avait détourné la rivière de 20 mètres pour que les gens puissent passer ici sur cette autoroute à pèlerins. Je pense que je vais avoir du mal à me recueillir ici et à prier pour laver les péchés de toute l'équipe de là-bas si j'y suis.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia,
alléluia, alléluia, alléluia.
Jésus-Christ dit à ses sbires, je suis le sauveur attendu. Et lorsque vous ne m'aurez plus, vous pouvez vous attendre au pire. Jésus-Christ a donc, quel cynisme, inventé l'après-gaullisme. Alléluia, alléluia.
Lourdes by night, rien n'a changé. Les affaires continuent. Il y a toujours plein de monde en train d'acheter des petites gourdes. Lourdes, c'est la deuxième ville touristique de France, après Paris, bien sûr, après Paris. Et donc là, comme à côté de la Tour Eiffel, il y a des petites Tours Eiffel avec de la neige qui se retourne. Là, c'est la Sainte Vierge avec de la neige qui se retourne. Des cartes postales avec le pape Benoît XVI, avec le pape Jean-Paul II. Comme l'écrit la Chambre de commerce des Hautes-Pyrénées, le produit Lourdes semble bien positionné sur le marché. Il y a en tout à Lourdes 223 hôtels pour 28 000 lits. C'est deux fois plus que le nombre d'habitants de Lourdes. Et chaque hôtel, presque chaque hôtel, a son petit magasin avec des chapelets. On passe devant des dizaines d'échoppes, Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Patrick, là, alors là, qui est English spoken, Vlaams, Deutsch, English, Italiano, Espagnol, dans toutes les langues, la Croix de Jérusalem, Nation catholique, Saint-Mathias, Grotte de Bétaram, Saint-André, Notre-Dame de Lourdes, Haut Chapelet de la Vierge, le Sacré-Cœur, la Vierge Immaculée, «
Alors là, on se trouve devant le magasin Alliance Catholique, fournisseur officiel du Vatican. C'est inscrit avec des tubes lumineux. Et ici, on diffuse de la musique d'ambiance.
Rémi.
To know if the history of Saint Bernadette is out here.
Ah ben moi là je suis pas trop au courant et ma responsable elle est pas là.
But this one you cannot guarantee if the story of Saint Bernadette is here.
Là vous avez les bras chargés de paniers. Alors qu'est-ce que vous avez comme article?
Des vierges en plastique, des bidons aussi, des cierges. Ça c'est des boules de neige, des boules à neige. Moi mon papa a une vierge de Lourdes en plastique. Rempli d'eau, au pied de ses rosiers, et voilà, le rosier est dédié à la Vierge de Lourdes. Et pas que l'orage, la foudre tombe dessus. Et la Vierge de Lourdes aussi protège pas mal.
Elle sert aussi de paratonnerre.
Voilà, elle sert aussi de paratonnerre dans certains cas.
C'est polyvalent, multifonction alors.
Si on a la foi, elle soigne beaucoup de maux.
D'accord. Ça c'est quoi?
Ça c'est des boîtes à pilules.
Alors ça c'est, on a l'impression
ça, c'est des petits chapelets.
C'est un peu voilà. Kinder Surprise, Kinder, avec un chapelet à l'intérieur.
Voilà, des pins avec la colombe de...
Non, c'est l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint, voilà, merci.
Ensuite, ça c'est quoi? C'est une cuillère?
Oui, une cuillère. Une cuillère au souvenir de Lourdes.
Moi j'avais un cocotier.
L'apparition.
Pour faire les œufs à la coque.
Oui, oui, on en a eu aussi, mais on n'en a plus.
Ça se fait moins les œufs à la coque, oui. On mange moins les œufs à la coque.
Ça c'est des petites assiettes.
Avec la pierre apparition au milieu aussi.
L'apparition au milieu. L'an dernier, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé des cierges à leur taille.
Alors là, on a des Saintes Bernadette à peu près de toutes les tailles.
Toute matière et en toute taille, presque. Alors. En porcelaine, en plastique, celles-là sont remplies d'eau de la grotte. Alors il y a les lumineuses, il y a celles qui ne sont pas lumineuses aussi, et en résine. Et en bois aussi.
Moi j'avais, quand j'étais enfant, une apparition avec... La musique. Ah, musique, vous avez ça aussi?
Avec la Vénus Maria de Lourdes.
Et est-ce que vous avez de temps en temps des remarques désagréables de gens qui viennent vous voir en vous rappelant?
Moi, je l'ai entendu 2-3 fois dans la saison, depuis le mois de mars, qu'on est là, quoi. Ils traitent de marchands du temple, donc nous, on n'est que des salariés. On n'est pas patron du magasin, je puis dire, donc on gagne notre vie.
Et l'Alliance catholique, ça appartient à un patron ou bien c'est une association?
C'est un patron, c'est un monsieur. Oui.
C'est pas le maire, parce que je sais que le maire, il a...
Non, c'est pas loin, mais c'est pas ici. On n'en a pas parlé, des fameux bonbons.
Alors dites-moi un peu ce que c'est, ça.
Alors ça, en fait, c'est les cailloux du Gave. Alors le Gave, c'est la rivière qui passe à Lourdes. C'est tout simplement des bonbons au sucre.
Mais alors chaque modèle est quand même estampillé qu'avec l'apparition sur chacun des...
Oui. Bah oui, c'est le marché qui veut ça.
Comme j'étais un peu déçu hier soir par la grotte, je me suis levé tôt ce matin pour vous, pour les auditeurs de là-bas si j'y suis, et je me suis rendu à ce qu'on appelle les piscines. Donc je m'y suis rendu en simple pèlerin. Dès 8h du matin, dès 7h30, dès 7h, il y avait déjà la queue. Et dès le matin, j'ai entendu des « Je vous salue Marie » en latin, en français, en italien, en anglais. Des « Je vous salue Marie » debout, des « Je vous salue Marie » assis, des « Je vous salue Marie » main ouverte, des « Je salue Marie » main fermée. Je me suis trouvé à côté de Gérard, un ancien garagiste qui s'est fait arracher une dent avant-hier. Et qui en a éprouvé d'abord des douleurs à la gencive, une gencive gonflée, et ensuite des démangeaisons sur les bras. Donc il venait aux piscines pour se faire soigner par la foi, m'a-t-il expliqué, par la Vierge Marie. J'avais apporté avec moi mon sac plastique à l'effigie de la Vierge Marie avec inscrit Lourdes dessus, et j'avais glissé à l'intérieur un caleçon et une serviette, mais apparemment c'était inutile. Gérard m'a bien prévenu que l'eau était froide, l'eau est à 12 degrés, Enfin, je lui ai dit, comme moi j'ai l'habitude de me baigner dans la mer du Nord, à Quimplage ou à Cailleux-sur-Mer, c'est pas 12 degrés qui va nous faire peur. Et au-dessus des rideaux étaient accrochées des consignes pour nous aider. La première consigne était de prier avant d'entrer dans l'eau. La deuxième consigne était de réciter un « Je vous salue Marie » ou un « Notre Père » dans l'eau. Et la troisième consigne était de prier Sainte Bernadette en sortant de l'eau. Et puis, on entre dans, en fait, non pas une piscine, mais une baignoire de marbre. Donc en sortant, j'ai retrouvé Gérard, qui a dit que déjà, il se sentait beaucoup mieux, tant au niveau de la gencive que des démangeaisons. Voilà un peu les nouvelles que je pouvais vous donner depuis les toilettes de la chambre 628 de l'hôtel Saint-Sauveur à Lourdes. À vous Paris, à vous les suivre.
Face à tous ceux qui se moquent de toi, en chantant des chansons qui t'offensent, mais je pardonne à celui qui ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on pense qu'on a raison.
C'était un reportage de François Ruffin, première diffusion le 16 septembre 2008. Merci au père Xavier Hermand, à Albert, Viviane, aux paroissiens de Namur, ainsi qu'à Baudouin et Chapas, Jean Omnes, Bernard Valreau et ses amis de la Libre Pensée 65. À lire Archives secrètes de Lourdes aux sources du mystère de Baudouin et Chapas et Jean Omnes, publié par les éditions privées en 2008. Et sur un tout autre sujet, un très beau livre, Paroles de chômeurs écrits d'inutilisés, des demandeurs d'emploi réunis pendant 15 semaines par le syndicat wallon FGTB ont raconté leur perception du chômage. Un livre sur le sentiment d'invisibilité paru aux éditions du Cerisier. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émissions là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Céline Bonhomme. Réalisation Koyan Guyenne et Raphaël Mouterne. Assistante Agnès Lebotte. Chef du répondeur, Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.